Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Okapi et parole aux auditeurs en cette période de fête de fin d'année. Ce lundi 27 décembre 2010, nous nous retrouvons avec vous autour d'un sujet économique. Vous savez que le mardi 21 décembre dernier, le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, a supprimé la République démocratique du Congo de la liste des pays africains éligibles à un statut de partenaire commercial privilégié avec les États-Unis. M. Obama a pris cette décision à l'occasion de la révision annuelle du programme Africa Growth and Opportunity Act, AGOA, ou la loi pour la croissance et les opportunités en Afrique imposée par la loi et qui prend en considération les avancées ou les reculs démocratiques dans les pays concernés. J'ai déterminé que la RDC n'effectue pas les progrès nécessaires pour répondre aux critères de l'AGOA, a indiqué le président Barack Obama dans un décret. Notons que c'est au mois de mai que le Congrès américain avait adopté cette loi qui a pour but de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale. Et la RDC avait rejoint l'AGOA en 2003. Nous en parlons avec vos fidèles auditeurs parce que l'AGOA a permis à la RDC de renflouer les trésors publics congolais avec 300 millions de dollars américains en 2009 provenant des exportations vers les États-Unis. Deux questions pour notre échange avec vous. Comment réagissez-vous face à cette décision et quel est l'impact de cette décision sur la croissance économique de la RDC? Parole aux auditeurs invités pour vous au téléphone dans cette émission, le professeur Donatien Kabanga, professeur d'économie à l'Université catholique du Congo et autres universités du pays, Marie-Chantal Lumba, Tissimpoutou et Sylvain Matondou à la réalisation de cette émission, mise fidèle et Thierry Lamézi à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous. La décision du gouvernement américain d'exclure la RDC de la liste des pays bénéficiant du programme AGOA et ce que vous en pensez est au centre des paroles aux auditeurs de ce matin. Et nous examinons avec vous aussi l'impact de cette décision sur la croissance économique de la RDC. Si vous avez besoin de témoigner, de nous appeler, n'oubliez pas de le faire au 081-890-6315. Vous pouvez également, si vous nous écoutez sur Internet, nous envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. Comme je le disais, le but de l'AGOA est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale et d'autres conditions qui ont été posées. Professeur Donatien Kabanga, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi la problématique de notre émission autour de laquelle les auditeurs de Radio Okapi vont se pencher pour analyser ensemble la décision du gouvernement américain. Nous rappelons déjà à nos auditeurs que c'est une décision souveraine, bien sûr, hein, sur certains critères. Mais notre souci aussi, c'est de savoir l'impact de tout cela sur la croissance économique de la RDC en cette période. Vous avez suivi, comme les auditeurs, comme nous, la décision prise par le gouvernement américain. Et vous êtes économiste d'emblée, quand vous avez suivi une telle décision, comment, en tant qu'analyste politique et analyste économique, vous pouvez réagir?
Oui, en ce qui concerne, je peux d'abord regarder les relations commerciales entre les États-Unis et la RDC dans le cadre des échanges internationaux. Les échanges internationaux entre la RDC et les États-Unis sont dans l'ordre de 3 à 5 %. Donc, ça signifie que, d'une manière directe, lorsque nous regardons les zones en termes de 3 %, on ne voit pas tellement ce que ça peut avoir comme impact direct au niveau de l'économie congolaise. Ça, c'est du point de vue théorique. Mais raisonnons maintenant pratiquement. L'Amérique, les États-Unis contrôlent pratiquement 50 à 60% des exportations mondiales. Alors, ça signifie automatiquement le fait qu'ils contrôlent 50 à 60% des exportations mondiales. Ça a un effet indirect au niveau de notre économie. Ça signifie quoi pratiquement? Ça signifie que l'économie de la RDC ou bien les exportations de la RDC seront laissées dans les mains de vautours. Étant donné que nous sommes des preneurs de prix, on est preneurs de prix, c'est-à-dire que les prix sont fixés sur le marché mondial, nous nous subissons les prix qui sont fixés. Le fait qu'il n'y a plus de parapluie, il n'y a plus de protection, nos produits ne seront pas cotés à Los Angeles, à New York, ni à Londres, ça signifie que leur valeur est égale à zéro. Leur valeur étant égale à zéro, les autres peuvent fixer les prix comme ils le veulent. Et cela aura un impact au niveau de nos recettes d'exportation. Et pour calculer la croissance économique, les exportations sont parmi les variables importantes, les variables composites du PIB. Étant donné qu'il y aura un impact défavorable au niveau des exportations, et par surcroît, il y aura automatiquement des effets néfastes au niveau de la croissance économique de la RDC.
Voilà. Alors, on regarde en ligne, professeur, c'est vraiment intéressant que les auditeurs aussi comprennent, hein, peut-être que beaucoup n'ont pas compris ce que voulait dire AGOA et son impact, ça va permettre dans cette émission aussi de les aider à comprendre. Nous avons par exemple Christophe qui nous appelle du Siro, Mathieu qui nous appelle de Kananga, ils sont en ligne. Et professeur, vous avez déjà expliqué d'une manière directe et d'une manière indirecte l'impact de cette mesure sur l'économie de la RDC. On vous garde en ligne. Il est temps de prendre aussi quelques auditeurs qui vont juste peut-être poser des questions, donner leur point de vue. On va cheminer ainsi ensemble.
Parole aux auditeurs.
Christophe, vous êtes à Isiro, en province orientale. Vous avez suivi l'explication de la production du professeur Domitien Kabanga, qui est économiste, et vous avez peut-être suivi sur les antennes des radios qu'a fait cette actualité autour de la RDC, qui est exclue de cette liste d'AGOA, et que j'ai expliqué que c'est une loi américaine qui permet aux pays africains de pouvoir vendre leurs produits aux États-Unis. C'est un partenariat commercial privilégié entre les États-Unis et les pays subsahariens. C'est là aussi, hein, il y a des avantages du type des taxes et de frais de douane, une exonération qui permet à ce que ces pays puissent exporter, mais à condition qu'ils puissent respecter un certain nombre de principes et tout cela. Christophe, vous êtes ici, quelle est votre réaction face à cette actualité?
Bon, selon moi, je vais répondre à deux volets. D'une part, c'est bien, parce qu'ils vont amener leurs produits. Et ils vont baisser les prix afin que toutes les populations puissent acheter ces produits et bénéficier à cela. Mais d'autre part, c'est très mauvais. Parce que, prenons l'exemple de ce qui est ici à Isiro. Les Chinois ont amené leurs marchandises. Mais ce sont des choses qui rentrent vraiment. Ce qui n'a pas d'importance. Ils ont amené le téléphone, les appareils photographiques. Vous allez voir que si vous achetez aujourd'hui le téléphone, ce téléphone, mais ça commence à déranger aujourd'hui même. Jusqu'à ce que vous allez dépasser ça. L'argent que vous avez acheté, cela part dans l'eau.
Christophe, vous, votre inquiétude, c'est que quand la RDC, ses partenariats est rompu entre la RDC et les États-Unis, vous avez peur que le marché congolais puisse être uniquement inondé avec des produits qui viennent d'autres pays et les produits de mauvaise qualité. C'est ça votre inquiétude?
Oui, c'est ça mon inquiétude. Donc, il faut que le gouvernement, s'il accepte ça, qu'il puisse vérifier si ce sont des bonnes choses mais ça ne puisse pas déranger la population.
Merci Christophe. Pour votre inquiétude, c'est au niveau des échanges commerciaux entre la RDC et d'autres pays, la qualité des produits, si jamais les comme les échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique, par exemple, sont rompus sur base de ces programmes à Goa. Mais j'insiste encore, c'est le programme qui permet aux pays subsahariens d'exporter et de vendre leurs produits sur le marché américain. À Kanango Castro Occidental, c'est Mathieu qui est en ligne. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, M. Perrault. D'abord, je vous présente mes belles nouvelles. C'est pour toi, Panama.
Merci. On vous écoute maintenant par rapport à cette décision.
Bon, l'État nationaliste et fait majeur de ce pays. Ma réaction est la suivante, M. Perrault. D'abord, un pays qui porte les flambeaux de la démocratie dans le monde, à savoir les États-Unis d'Amérique, ne peut en aucun cas prendre une décision dans ce sens-là pour la simple raison qu'ils ont été informés par quelqu'un, quelle que soit sa personnalité au niveau international. Elle devait utiliser une politique de concertation avant de prendre toute décision. Si aujourd'hui, nous les Congolais, nous supportons les plans social, économique et sécuritaire, c'est à cause des Occidentaux, y compris même les Américains, qui nous obligent d'accueillir les réfugiés rwandais. Nous demandons, s'il vous plaît, d'avoir pitié de nous, Congolais, qui continuent de vivre dans une ambassade la plus silencieuse de leur part. Où aujourd'hui, les peuples vivent par la misère la plus noire de son histoire. Quant à notre gouvernement, c'est là la forme de discorde. Nous les demandons de faire tous les mieux possibles d'imposer le respect des droits de l'homme dans ce pays. Dans ce cas précis, M. le journaliste, il n'y a aucun avantage législatif depuis 2006. Je vous remercie.
Merci, Mathieu. On vous écoute. Et vous, vous posez un problème. Vous dites que pour vous, vous pensez qu'il fallait d'abord que le gouvernement américain puisse aller d'une manière concertée avec la RDC au lieu de prendre la décision brusquement. Mais là, au deuxième propos, vous rejoignez presque l'inquiétude du ministre de communication média, porte-parole du gouvernement de la RDC, qui a pensé que la RDC a été frappée, bien sûr. On parle du non-respect des droits de l'homme et des violations qui continuent, mais lui aussi il dit ceux qui continuent à violer à l'Est, ce sont les groupes armés étrangers comme le FDLR par exemple, qu'on ne pouvait pas mettre sur le même pied d'égalité avec l'armée congolaise pour que les États-Unis se battent sur cela. Mais il y a d'autres critères aussi qui ont permis, après l'évaluation, d'exclure la RDC. Merci Mathieu, à ouvrir à Séraphin qui est en ligne. Séraphin, bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot Lamégie.
Vous avez suivi le premier auditeur, Christophe Bissiroli, il s'est plaint qu'il a peur que ses partenariats privilégiés, si le Congo, comme le Congo l'a perdu, que le Congo soit exposé à un marché de produits de mauvaise qualité. Mais Mathieu de Kangalou pense qu'il faudrait quand même se concerter avec le gouvernement congolais, parce que ceux qui violent plus les droits de l'homme à l'Est, ce sont un groupe armé étranger. On ne pouvait pas les mettre sur le même pied d'égalité avec l'armée congolaise pour punir la RDC de perdre ses statuts privilégiés avec les États-Unis sur le plan des échanges commerciaux. Séraphin, quel est votre point de vue, vous qui êtes à Ouvira?
Oui, je pense que leur inquiétude est un peu fondée. Il paraît aussi d'abord que, évidemment, aucun pays ne peut pas vivre dans l'autarcie, sauf peut-être si ces derniers possèdent exactement des ressources correspondant à ses besoins. Mais ce qui n'est pas malheureusement le cas de notre pays, parce que nous ignorons que l'économie de notre pays a tellement été extravertie. Et comme aujourd'hui, les États-Unis viennent de nous écarter dans son programme à Goa, alors que notre pays, son économie est totalement dépendante, il y aura nécessairement des conséquences néfastes. Que je peux peut-être souligner, il y a d'abord une forte contrainte des politiques économiques. Donc, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'il n'y aura plus la nécessité de l'équilibre commercial. C'est-à-dire, l'accès aux biens et services auxquels le pays profiterait dans ces cadres n'aura plus l'approvisionnement. Donc, deviendra très difficile dans l'approvisionnement et surtout, ça sera très coûté. Tout simplement parce que nous n'aurons plus la préférence tarifaire. Ça, c'est d'abord la première raison, la première conséquence. Il peut y avoir aussi d'autres manques de nécessité d'emprunt international ou nécessité de procéder de fortes réserves à devises américaines dans ces cas. Parce que je suis sans ignorer, dans notre pays, la devise la plus utilisée actuellement, c'est le dollar américain. Et lorsqu'on veut nous chasser, nous n'aurons plus l'opportunité, il y aura peut-être un déficit là de devises.
C'est la fin, vous êtes en ligne? Bon, apparemment, on a perdu Séraphin. Les trois auditeurs, les premiers trois auditeurs avec leurs inquiétudes, on les a suivis. Nous allons redonner la parole à notre invité, le professeur Donatien Kabanga. Vous avez suivi, nous prenons ainsi hein, les Congolais qui sont à n'importe quel point de la RDC pour savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes, s'ils comprennent un peu toutes ces histoires, est-ce qu'ils sont touchés directement par tout cela. Eu égard un peu à de manière générale, les trois auditeurs, et vous les avez suivis, et par rapport à leurs inquiétudes, est-ce que cette décision peut toucher directement le quotidien du Congolais moyen, par exemple, qui est dans son coin, qui fait sa petite activité, ou soit qui est agriculteur quelque part, est-ce que cette décision peut toucher directement la vie de tous les Congolais? Pour que ça ne soit pas comme un débat seulement des intellectuels, est-ce que toute la population peut subir ça?
Oui, effectivement. Je peux comparer cette mesure à la mesure qui a été prise dans les années 86-87 concernant l'embargo qui a été décrété vis-à-vis de la RDC, où on avait carrément gelé toute intervention financière envers la RDC. Mm-hmm. Vous connaissez vous-même le résultat. Mm-hmm. C'est un processus. On ne peut pas sentir peut-être les effets aujourd'hui, mais il y a des effets dans le temps. Donc, si je dis que je peux assimiler cela à l'embargo qui a été lancé en 86-87, vous connaissez vous-même ce que ça a donné par la suite au niveau de la population. Mmh. C'est exactement centré dans le même, c'est le même processus. Ce sont des mesures qui sont proches à la longue. Ça fait 10 ans. Au départ, on n'a pas senti, mais avec le temps, l'effet au niveau de la population était catastrophique. Mmh. Et vous connaissez vous-même à quoi ça aboutit au niveau de la RDC. Mmh. Donc je ne vais pas vous rappeler cela. Mmh. Et n'oubliez pas que le fait qu'on ne va pas pratiquer le juste prix au niveau de la RDC, mmh. et il y aura une détérioration au niveau des termes de l'échange. Mmh. Et la détérioration au niveau des termes de l'échange a un impact directement sur le recette d'exportation. Mais étant donné que les exportations contribuent, c'est une composante du PIB, c'est-à-dire ça contribue dans les calculs de la croissance économique, et quand on dit croissance économique, on vise en quelque sorte, entre guillemets, mm-hmm. l'amélioration du bien-être de la population.
Voilà. Mm.
Mais quand la croissance économique du PIB s'amenuise, alors automatiquement vous pouvez mm. voir quel genre d'effet qu'on peut avoir au niveau de la population. Mm. Ce n'est pas peut-être demain, aujourd'hui ou demain, mais c'est un processus, c'est à long terme, mais c'est comparable à l'embargo qui a été lancé contre la RDC en 2006.
Voilà. Il y a Trifon qui est à Lubumbashi. Trifon, on vous garde en ligne. Nous allons demander au professeur, bon, parmi les conditions qui sont dans cette loi, la GOA, les pays doivent faire un effort pour respecter le principe de l'économie libérale. Si vous pouvez aider aussi les auditeurs à comprendre le principe de l'économie libérale, par exemple la RDC, qu'est-ce que le Congo pouvait faire pour respecter, pour répondre à cette condition en termes clairs, professeur?
Bon, les conditions libérales, ce sont les conditions du marché. Donc, il ne doit pas y avoir des entraves au niveau c'est ce que nous appelons. Donc, il ne doit pas y avoir. Ça veut dire qu'il faut respecter les conditions qui sont fixées dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. Mm-hmm. Et c'est ça, ces conditions-là. Mais seulement au niveau des États-Unis, on avait également ajouté que le droit de l'homme était aussi mmh. un critère important pour bénéficier
de ce programme. Voilà. Mmh. Et il y a Trifon qui est à Lubumbashi et Eri est à Goma. Nous allons vous prendre tout de suite après.
Parole aux auditeurs.
Trifon, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous avez suivi les professeurs de Machin Kabanga, vous avez suivi les premiers auditeurs, les inquiétudes des uns et des autres. Quel est votre point de vue à ce niveau du débat autour de l'exclusion de la RDC du programme AGOA par les États-Unis d'Amérique?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Mais mon point de vue, je pense que c'est un constat qui est très amer. Je vais pas aller dans deux volets, comme a dit l'autre. Je dis quoi? La faute est partagée en quelque sorte. Au fond de moi, je me suis posé la question de savoir est-ce que les États-Unis peuvent se réveiller aujourd'hui comme ça et dire que nous retirons la RDC de notre liste. Ce n'est pas quelque chose qui se réveille comme ça, il le fait. Mais d'autre part aussi, il y a une certaine inquiétude qui est dans le chef de tous les Congolais, même s'il ne s'estimait pas aujourd'hui. Mm-hmm. Et la crainte, c'est quoi? C'est que, vous voyez d'abord, les États-Unis, la RDC, c'est un pays démocratique, comme on dit, un pays autonome. Il y a des choses qu'il faut toujours coopérer. Même s'il fallait coopérer, il fallait plutôt miser plus sur la vie de ces Congolais qui souffrent déjà. Mmh. Cette décision que les États-Unis viennent de prendre maintenant, je pense que c'est une décision qui ne bénéficie mais qui ne favorise pas la vie de ces petits peuples citoyens qui souffrent, de ces petits Congolais qui souffrent déjà. Mmh. Parce que le professeur vient de le dire, je vous remercie pour avoir aidé à tout le monde à comprendre le niveau de ce débat. Il y a des conséquences à court terme et à long terme. Mmh. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sent pas l'impact de cette décision, mais plus tard, ça va causer du tort à la vie de ces Congolais qui souffrent déjà. Mmh. Excusez-moi de faire un pas en arrière. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une mission pour parler de ma préparation au festival de fin d'année. Il n'y a pas cet engouement-là pour que la population puisse souhaiter. Et ça montre déjà combien la population est en train de souffrir. Aujourd'hui, les États-Unis se mettent à position de prendre cette décision-là, sans pour autant regarder la souffrance de ces Congolais.
Si je peux vous aider, vous voyez, en fait, la décision, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. C'est en 2003 que la RDC a rejoint le programme AGOA. Et chaque année, le gouvernement américain, sur base d'une loi, évalue pour voir si chaque pays qui bénéficie de ce programme effectue des progrès dans différents, en fait, par rapport aux critères qui sont imposés. Et sur base de cette loi et de ces principes, le gouvernement américain regarde et il trouve, comme le président Obama l'a dit, que la RDC n'effectue pas les progrès nécessaires pour répondre aux critères de l'AGOA. C'est un principe d'une loi et quand la loi elle est opposable au président Obama, au gouvernement, la loi est votée depuis 2000 et quand on se rend compte à travers cette loi que vous ne répondez pas aux critères, on dit quoi? On vous retire ces statuts. C'est ça aussi le problème. Il y a aussi d'un côté, vous avez raison, la population qui souffre, mais d'un côté, il y a aussi les exigences qu'il faut respecter et là aussi, c'est la responsabilité des gouvernants.
Merci, M. le journaliste, pour l'éclaircissement. Et d'ailleurs, quand j'ai dit que j'interviens dans des volets, merci vraiment. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là que je voulais aussi chuter. Ça dit quoi? Quand les États-Unis invitent la RDC à entrer dans son circuit-là, ça dit que c'est comme une inscription dans une école. Quand vous êtes inscrit, la personne s'inscrit dans une école, il y a des règles à respecter. Sinon, il y a les barèmes de sanctions. Mm-hmm. Et les cas présents, je pense que ça doit aider. Ça, c'est vrai. Ça doit aider les autorités, les dirigeants congolais à prendre leurs responsabilités à main. Voilà. Parce qu'ils se sont inscrits, ce qui m'étonne, c'est quoi? La RDC est toujours parmi les premières nations à s'inscrire dans les, je ne sais pas moi, les histoires qui se passent au monde, mais pour le respect de ce qui est comme critère, ça pose très problème. Les cas ici présents, c'est ce que j'ai dit. Ces gens-là qui dirigent ces pays, les autorités du pays, ne souffriront pas vraiment de cette décision. Mais le pauvre peuple, le pauvre citoyen qui souffre, c'est pour dire quoi? Ça doit interpeller les autorités congolaises à être responsables face à leurs engagements. Ça aiderait beaucoup la population, le petit peuple, à vivre du moins de ce qu'on est capable de bénéficier. Sinon, c'est catastrophique. C'est permis pour dire qu'en tout cas, c'est un exercice pour tirer le dirigeant congolais les oreilles pour dire que soyez responsable.
Merci, Stéphane. Vous pensez que la décision aussi, c'est une façon d'interpeller les autorités congolaises à s'amender, à s'engager pour essayer des principes auxquels ils ont adhéré. Merci, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Nous allons à Goma, au nord Kivu. Eric, vous êtes en ligne, bonjour. Vous avez suivi tout ça, tu penses que cette décision du gouvernement américain, c'est aussi une façon d'interpeller les Congolais à s'amender, parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter quand on adhère à une organisation, il faut respecter ces principes pour qu'enfin la population puisse bénéficier de tous ces avantages. Et on vous écoute.
Ce qu'il a dit, je ne serais pas contredire. Je dis que, vous voyez, d'abord, quand je l'ai suivi, il faut passer quand le gouvernement, pas l'entremise du Borsan, avait pris un moment pour réfléchir à l'opinion, qu'est-ce qui aurait motivé cette décision. Moi, j'avais dit que le Borsan ne prendrait pas tout simplement le temps de faire la défensive, qu'on cherche en quelque sorte à contredire la décision prise par la GOA. Et elle a dit que peut-être les autorités congolaises, c'est eux-mêmes qui auraient raison. Moi, je dis que c'est aussi une façon d'interpeller exactement comme les prédécesseurs venaient de le dire, les autorités administratives, politiques, aussi, de savoir que, bien qu'ils aient, comme tu dirais, une vie bien aisée, ils passent nuit sans aucun critiquement de balle, ils ne trouvent pas à manger régulièrement. Il y a aussi certaines populations qui, par contre, n'en souffrent. Je pense que si on prendrait une telle décision, la population serait la première à souffrir, à être victime de cette décision. Je pense que ce n'est pas qu'un État ne demande jamais pardon, mais ce qui serait à faire, c'est chercher vraiment un ensemble d'alternatives, de chemins à emprunter pour que, voir si les États-Unis peuvent encore revenir sur sa décision, pour que nous, parce que nous qui sommes déjà à l'Est, nous bénéficions effectivement de ces minéraux qui proviennent de la périphérie de la ville. Un grand nombre de mes étudiants avec qui je suis, je pense que les frais proviendraient de la périphérie de la ville. C'est que, comment, avec une telle décision, je ne pense pas qu'elle aurait vraiment aidé au pays un temps pour ce. Mais je voudrais une d'abord question. Est-ce que les États-Unis, vraiment, quelle est son influence dans ce trafic de ces matières premières? Est-ce que sans les États-Unis, le Congo ne serait pas en train d'exprimer ces matières à guerre? C'est que les États-Unis, eux-mêmes qui posent le marché mondial pour la transaction de ces matières.
Voilà, merci. D'ailleurs, le professeur Kabang avait déjà répondu. Peut-être qu'il pourra encore vous réexpliquer ça pour permettre aux autres auditeurs de comprendre si je pouvais les compléter. Il a dit, bien sûr, que les États-Unis détiennent, si je me rappelle bien le chiffre, il a parlé de 50 à 60% de l'exportation mondiale. On va vérifier ensemble avec le professeur Kabanga. Et indirectement, nous sommes aussi affectés par cela. Mais il faut rappeler, selon le porte-parole de l'ambassade américaine à Kinshasa, il a dit qu'en 2009, les exportations congolaises vers les États-Unis, bien sûr, dans le programme AGOA, ça a permis au Congo d'avoir de renflouer au moins 300 millions de dollars pour dans le budget, dans le trésor public. Mais 300 millions de dollars, c'est quand même quelque chose qui peut permettre, tant mieux que mal, à résoudre un problème. Merci, Eli. Nous terminons cette deuxième série d'auditeurs avec Fidel qui nous appelle Bécalémi. Fidel, bonjour.
Bonjour, meilleurs voeux à tous et meilleurs voeux au professeur Kabanga.
Merci.
Si j'ai bien compris, d'après ce qu'il nous a dit, les Américains intervenaient entre 3 et 5 % dans les
échanges. Voilà. Les échanges commerciaux. Oui, avec la RDC des États-Unis, il a parlé en termes de 3 à 5 %, oui.
Tout à fait. Ce que j'ai retenu, c'est que AGOA est venu au Congo en 2003. Or, en 2003, nous sortions directement de la guerre. Et nous avions 6 millions de personnes tuées. Tous les droits de l'homme étaient bafoués à cette époque-là. Mais il est quand même intervenu à partir de 2003. Alors, je ne sais pas quel était le critère qui a fait que qu'il vienne à ce moment-là. Bon, les choses évoluant, il intervient avec 3 à 5%, mais maintenant, le critère le plus grave qu'il a retenu serait le droit de l'homme qui ne serait pas réuni au Congo. Alors là, je ne comprends pas très bien. 6 millions de personnes ont été tuées. Aujourd'hui, moi, je dirais qu'il y a comme une main noire politique dans notre pays qui voudrait que les choses puissent échouer parce que justement on frappe dans ce milieu-là de droits de l'homme systématiquement, alors que nous venons de sortir du point d'achèvement, alors que nous continuons à évoluer dans le bon sens, et on frappe justement à ce niveau-là, et les Américains aussi s'y mettent. Alors moi je comprends rien, 3 millions ou 6 millions de personnes tuées, actuellement quelques cas, on a pris maintenant la décision de tout arrêter. Moi je suis vraiment, l'impact il va y avoir, si ça nous a produit plus de 300 millions à une époque, alors ça va nous manquer. Alors c'est maintenant que ces Américains devraient nous soutenir, étant donné l'évolution des choses dans le pays.
Voilà. Merci Fidel. Votre inquiétude, c'est autour de terme droit de l'homme, parce que vous pensez que d'un côté, il y a les institutions internationales de Bretton Woods, par exemple, qui acceptent de coopérer avec la RDC, qu'on est sur la bonne voie, il y a les points d'achèvement, il y a l'effacement de la dette, mais d'un côté, qu'on trouve que les États-Unis trouvent que la situation des droits de l'homme ne marche pas et qu'on coupe avec le programme AGOA, c'est ça votre inquiétude fidèle. Vous êtes à Calémie, merci. Avant de donner la parole au professeur Assimoué, vous êtes à Bounia, vous êtes en ligne, bonjour Assimoué.
Ouais, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
J'en profite d'abord pour vous souhaiter le meilleur vœu.
Merci.
En fait, nous avons accueilli cette décision aberrante, beaucoup de regrets. D'autant plus que si vous voyez la population congolaise sur le plan économique, dans quelles conditions que cette population se retrouve, en fait, nous ne devions pas nous attendre à ce genre de choses, de décisions qui retirent la RDC, disons, de certains intérêts. En fait, pour moi, c'est grand regret d'en prendre cette décision. D'autant plus que je me référais déjà le manque à gagner pour. La RDC, pour les auditeurs précédents qui venaient de dire que non, il y a le problème, il fallait interpeller d'abord les gouvernements ceci. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Donc, vous voyez pourquoi aujourd'hui, là, on n'a pas directement sorti les autres groupes, les autres pays, disons, mais seulement on a fait sortir la RDC après l'alliance. C'est pour dire que nous ne représentons rien.
Il n'y a pas seulement la RDC, il y a aussi des pays qui ont été exclus. Il y a par exemple d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme Madagascar à un certain moment, comme la Mauritanie, il y a eu aussi le Niger, il y a eu la Guinée. Il y a aussi des pays qui ont été exclus, ce n'est pas seulement la RDC seule.
Oui, bien sûr, mais je m'attends plus que sur le plan de la RDC, d'autant plus que c'est moi parti. Je me dis, vous êtes le journaliste, vous devez comprendre que c'est un réglage et que ça fait des
présentations. Voilà,
le social de la population est vraiment mélangé, vraiment dangereux. Alors qu'on lui dit qu'on dit.
Voilà, on a perdu Assimoué de Bounia, mais dis-moi, il est en train de présenter ses inquiétudes. Hein. Eric, on vous garde en ligne. Le temps qu'on redonne la parole au professeur Lunacien Kabanga pour éclaircir un peu les quelques préoccupations des auditeurs que nous avons notées. Et puis, on va vous donner aussi la parole. Eric, vous êtes à Boutembo. On va vous donner la parole tout juste après l'intervention du professeur.
Parole aux auditeurs.
Professeur de l'ancien Kabanga, vous avez écouté les uns et les autres. Bon, il y a une question qui a été posée par Eri de Goma qui pour lui, il demande si la RDC n'a pas d'autres partenaires extérieurs où elle peut vendre ses minerais, par exemple, ou d'autres produits, si seulement les États-Unis constituent la majorité, si on peut dire, le pourcentage élevé de l'exportation. Il demande un petit. Si jamais on se tourne ailleurs, est-ce que ça peut continuer à avoir d'impact? Mais il y a aussi Fidel Décalémie qui dit, mais comment, d'un côté, on a atteint le point d'achèvement, l'effacement de la dette, ce qui veut dire qu'on est quand même sur une bonne lancée, mais d'un côté, qu'on trouve qu'on peut nous retirer un statut, lui, il s'inquiète un peu de cette façon. D'un côté, on avance, d'un côté, on nous dit qu'on n'avance pas sur les plans économiques, il s'inquiète un peu.
Oui, je peux répondre directement aux auditeurs. Donc, la RDC a effectivement d'autres partenaires commerciaux à qui il peut vendre ses produits. Mais il faut toujours mettre à l'esprit que les États-Unis contrôlent 50 à 60%
du commerce mondial.
Ok. Et c'est que dans le cadre des accords, on bénéficie de ce que nous appelons le juste prix. C'est-à-dire que on produit, par exemple, le cuivre sur le marché international à Londres, Los Angeles, New York, etc., était coté. Alors, les Américains donnaient une valeur à ces matières premières. Même nos partenaires, s'ils veulent nous acheter, devraient nous acheter à ces prix-là. Pourquoi c'est ça le grand problème? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on donne de la valeur à nos matières premières. Du moment où on n'est pas coté sur le marché et que le marché est considéré en quelque sorte comme une base de référence. Mais le fait qu'on n'est pas coté sur le marché et qu'on ne va pas pratiquer le système des juste prix, et ça va se jouer au niveau de l'offre et de la demande.
Voilà.
C'est que les prix de nos produits seront sous-évalués. Et ça aura un impact au niveau de nos recettes, voire même vis-à-vis de nos partenaires. Ça, c'est le premier volet de la question.
Voilà, et Fidel de Calémy, lui, a dit que d'un côté, il a vu comme si la RDC a évolué parce qu'il y a quand même atteint des points d'achèvement, l'effacement de la dette pour d'autres partenaires, et d'un côté, encore une fois.
Effectivement,
il s'inquiète un peu par rapport au titre.
Les indicateurs pour accéder au point d'achèvement, ce n'est pas les mêmes indicateurs ou les mêmes conditions qui sont posées, par exemple, dans les cadres des accords avec les États-Unis.
Voilà.
Dans le cadre des accords avec les États-Unis, pour bénéficier de ces accords, on dit qu'il faut respecter les droits de l'homme, ce qui est tout à fait différent de
Les
conditions sont des conditions d'ordre économique. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui ont été fixés. Il faut atteindre les niveaux de ces indicateurs-là. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Il faut réduire la pauvreté. Alors, on devrait regarder si on a réduit la pauvreté ou pas. Ce qui est tout à fait différent de respect des droits de l'homme, par exemple.
Voilà, là je pense que les auditeurs ont compris les raisons sur lesquelles, en fait les critères sur lesquels les États-Unis ont travaillé pour inscrire la RDC du programme AGOA. Eric, vous êtes à Boutembo, Guillaume est à Kindou. Eric, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi... Eric, vous avez suivi l'explication du professeur, il a bien expliqué par rapport aux inquiétudes que les auditeurs avaient d'un côté, tout comme de l'autre. On vous écoute Eric.
Effectivement, j'aimerais d'abord vous souhaiter un meilleur inglés.
Merci.
Vraiment, je suis tellement inquiet par cette situation. Puisque, considérant la situation actuelle de notre pays, je trouve que vraiment nous sommes loin d'espérer une vie. Puisque, j'aime pas la question de savoir pourquoi les États-Unis ne pouvaient pas peut-être aller par commencer pour parler de la chose pour qu'ils remettent nos dirigeants dans le rail de ce programme-là. Donc je trouve que les États-Unis, dans cette mesure-là, il faut preuve d'une qui ne se suscite pas de la population de ces pays. Moi, je serais d'accord avec que si j'avais entendu qu'un jour, ils ont d'abord retiré les dirigeants de notre pays pour que peut-être puissent revoir leur façon de se mettre dans ce programme. Donc, vraiment, j'étais en train de dire que si j'étais en face du financier de ce programme, j'allais le supplier de passer vraiment à la vie de notre population congolaise qui est vraiment en train de couper dans la misère la plus noire. Sinon, c'est ce que j'avais comme intervention. C'est
merci.
Vraiment
voilà. Lamentable. Merci Eric, on écoute un peu l'inquiétude de la population parce que de toutes les façons les gens sont inquiets, ils disent que la situation sociale est compliquée et quand on exclut la RDC d'un programme qui lui permet quand même d'avoir des ressources financières aussi importantes et dévalorisées comme le professeur l'a dit ce matin première au niveau de différentes bourses et qu'on soit privé de cela, c'est aussi la souffrance directe de la population. Mais comme je le disais, beaucoup de gens souhaiteraient que les États-Unis interpellent avant de pouvoir retirer la RDC. Mais je crois, comme l'a dit Eric Degoma, tout comme l'a dit Clifon, c'est qu'il y a des critères. On vous dit, quand vous voulez adhérer à ça, voilà les critères, voilà ce que vous devez respecter. C'est à nous de fournir un effort pour marcher, respecter ces critères et enfin bénéficier des avantages. Merci Eric. Guillaume, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour monsieur Pedro, je suis ici, j'aimerais saluer tous les visiteurs de la Bosse.
Voilà, merci Guillaume, vous avez salué les auditeurs, ils vous ont suivi. Alors, on vous écoute par rapport maintenant à cette émission autour de la Goa.
En tout cas, moi, j'ai peut-être une vision contraire à celle de tous les auditeurs qui viennent d'intervenir.
Oui, on vous écoute, allez-y.
Bon, quant à moi, vraiment, je crois que ça ne serait pas... ça ne serait pas mieux d'abandonner les Américains parce qu'avec leur dollar américain, là, nous voyons que c'est un peu difficile parce qu'on a des problèmes souvent.
Oui, Guillaume, on a un problème de ligne avec vous. Apparemment, on ne vous entend pas bien. Vous dites qu'il ne serait pas mieux que la RDC puisse perdre un partenariat commercial avec les États-Unis. D'abord parce que c'est leur monnaie, comme
ça,
vous dites, voilà, c'est leur monnaie qui est beaucoup plus.
Ça, c'est là, M. Perrault, moi, je pense qu'il faut nous abandonner vraiment avec les Américains parce que les dollars, quand il y a plus de dollars, ça cause problème. Quand les dollars montent, ça cause des problèmes. Donc, il faut qu'ils partent et qu'on fasse aussi pour leur monnaie d'avance.
Ah, voilà. Votre souci à vous, c'est vous soutenez la décision du gouvernement américain, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas un partenariat avec les États-Unis parce que vous pensez que la monnaie, que vous, la devise américaine a tellement d'influence sur l'économie congolaise que vous ne voyez pas l'intérêt pour lequel ce partenariat peut continuer à exister. Merci Guillaume. Fabien, vous êtes à Bandundu, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, merci à tous les auditeurs de Radio Fatou.
On vous écoute, Fabien. Et tout de suite, on a perdu la ligne de Fabien. Je rappelle à nos auditeurs que parole aux auditeurs d'aujourd'hui revient sur la décision du gouvernement américain prise le 21 décembre dernier d'exclure la RDC du programme AGOA. C'est la loi américaine qui permet aux pays africains de pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis d'Amérique avec beaucoup d'avantages, comme une exonération, par exemple, des frais de douane, de la fiscalité. Et la RDC, selon l'évaluation du gouvernement américain, ne répondait pas aux critères d'être retenu sur cette liste, parmi lesquels le respect des droits de l'homme. Nous avons en ligne le professeur Donatien Kabanga-Tabala, avec qui nous sommes en train d'analyser ces sujets avec vous, auditeurs de Radio Capi. Vous pouvez nous appeler au 0481 890 6315 et ça, c'est nous envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net. On va revenir au professeur tout de suite après.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiocapi.net.
Professeur, on a vu aussi, il y a d'autres pays comme le Madagascar, qui quand ils ont été exclus de ces programmes, il y a eu aussi un impact direct au niveau de l'emploi, parce que les entreprises, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit même dans le domaine pétrolier, toutes ces entreprises qui engagent autant de personnes et qui profitaient de ces avantages et de ces marchés américains, cela permettait aussi à eux de pouvoir entretenir leurs fonctionnaires, leurs agents. Est-ce que, comme on l'a dit, cela peut avoir de l'impact quand bien même on pourrait vendre les produits sur d'autres, chez d'autres partenaires, mais au niveau de l'emploi, par exemple, une entreprise qui travaillait dans le secteur minier et qui avait ses avantages avec la GOA, qui aujourd'hui va voir ses produits sous-estimés ou bien sous-évalués sur d'autres marchés, et peuvent être les conséquences sur les plans de l'emploi pour les différentes entreprises qui bénéficient de ces principes. Et comment ces entreprises peuvent-elles se comporter pendant la période de transition pour se retrouver, professeur?
Oui, c'est que les entreprises qui étaient concernées dans ce secteur d'exportation qui bénéficiaient de la couverture américaine en matière de pratique de juste prix, auront automatiquement, il y aura un impact défavorable au niveau de leurs recettes d'exportation, c'est-à-dire que les entreprises exportatrices, donc il y aura un impact au niveau de leur exportation, et indirectement, ça va se répercuter au niveau et l'amélioration du bien-être de leurs fonctionnaires. C'est-à-dire que leur marge de manœuvre va diminuer. Mmh. Donc, ils vont diminuer leur marge de manœuvre et puis ils ne seront pas à mesure de constituer des provisions suffisantes comme ils le constituaient avant. Donc, indirectement, ça va avoir des effets au niveau de l'emploi. Mmh. Et toutes les entreprises qui sont lancées dans le cadre des exportations, le commerce international apporte une valeur ajoutée supérieure par rapport aux produits qui sont vendus sur le marché local. Mmh. Et automatiquement, la valeur ajoutée qui est élevée permet à l'entreprise d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, voire même de créer l'emploi pour pouvoir augmenter, financer, donc pour augmenter leur production.
Mmh. Et par exemple, comment une entreprise peut-elle se comporter pour supporter un peu le... Il y a quand même une transition. Vous êtes en train d'exporter vers avec une couverture, brusquement cette couverture s'arrête. Comment l'entreprise peut-elle se comporter alors pour supporter la transition et s'adapter à la nouvelle donne, professeur?
Il y a également un problème. Il y a un problème. Les grandes entreprises ou certains pays ont plus grande capacité d'adaptation. Ça signifie quoi? Nous devons modifier notre traçabilité. Donc, le produit, il y a une grande partie des produits qui s'est dirigé vers les États-Unis, mm-hmm. qui nous a apporté 300 millions de dollars. Mm-hmm. Ça signifie qu'il faut orienter cette exportation vers d'autres partenaires. Mm-hmm. Mais il faut avoir maintenant une capacité d'adaptabilité, s'adapter à cette nouvelle donne. Est-ce que nous avons la capacité de nous adapter à cette nouvelle donne à court terme? Je ne crois pas.
Voilà.
Là où réside le grand problème.
Mm-hmm.
C'est la capacité de s'adapter à cette nouvelle donne mm-hmm. à court terme, ça pose problème.
Mm-hmm.
Ce qui fait que même ces entreprises vont en souffrir.
Mm-hmm. Voilà. Merci, professeur. On tend déjà vers presque la fin de l'émission. Le temps qu'on lise aussi, il y a deux auditeurs qui nous ont écrit, comme André Moulamba, qui n'a pas indiqué les lieux. Ce sont les messages électroniques, bien sûr, hein, pour ceux qui nous écoutent sur www.radiocapi.net. On va lire ces messages, mais n'oubliez pas, si vous voulez être, bien sûr, intervenir comme on tend vers la fin de l'émission, appelez-nous au 0481-890-6315.
Parole aux auditeurs.
André Moulamba dit ceci, pas de marché, pas de salut. Les États-Unis ont toujours voulu étendre le marché mondial partout et au détriment de l'homme. Le Congo ne doit pas accepter cela comme un cadeau non plus. Pour lui, il pense que les États-Unis n'ont pas pu réussir en Amérique latine et en Orient. C'est ainsi qu'ils se sont tournés vers l'Afrique. Il dit ceci, qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui exploitent les minerais à l'Est. Alors, il pose la question de savoir jusqu'à quand les Congolais vont-ils souffrir. Il dit ceci, il suffit d'un peu de conscience et d'amour auprès des compatriotes congolais pour que notre pays se développe sans, bien sûr, recourir à tous ces échanges. Jean de la Croix, qui nous écrit des baraques en province du Sud, qui vous dit ceci, de mon point de vue, la décision des États-Unis d'Amérique de supprimer la RDC du programme à AGOA est à saluer, car ça va apprendre au gouvernement congolais de réhabiliter ces différentes industries inactives, de ne pas toujours espérer à l'importation. Que les gouvernements congolais prennent ses responsabilités. Voilà le point de vue des deux auditeurs. Anani, vous êtes en Boujimaï au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Vous avez suivi les uns et les autres depuis le début, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients de la décision sur la, de l'ensemble. Anani, quel est votre point de vue?
Bon, monsieur le journaliste, moi j'estime que la décision du président des États-Unis par rapport à notre pays, c'est vrai que, d'une part, c'est comme une certaine humiliation pour notre pays, mais de l'autre côté, moi, je trouve que nous devons avoir le courage. Moi, je peux demander à tous les Congolais d'avoir le courage parce que nous devons travailler pour augmenter la production de notre pays.
Mmh.
Quand nous essayons d'analyser un peu les relations entre les États-Unis et le Congo, vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus d'importations. Or, un pays ne peut pas commencer toujours à travers toute la politique sur les importations. Nous devons produire, nous devons augmenter la production de notre pays. Nous devons exporter pour avoir les dollars ou les devises dans notre pays. Et je pense que cette décision du président des États-Unis ne fait que, quelque part, coïncider avec ce que notre président nous a recommandé. Fini la récréation. Nous devons travailler. Moi, j'estime que les Congolais doivent prendre courage pour travailler, augmenter la production de notre pays. Mmh. En ce moment-là, nous allons aussi influencer, même sur les bourses là, internationales. Mmh. Il y a toujours moyen d'influencer sur les prix.
Voilà.
C'est au moins ça que moi je pense, monsieur le journaliste, à mon niveau.
Ok, merci Anani Dembujima. Et vous souhaitez vraiment que les Congolais puissent ressaisir par rapport à cette décision et se mettre au travail. Mais d'un côté, je pense que les dirigeants, l'interpellation, comme on l'a dit notre ami Jean Delacroix, c'est pour interpeller, améliorer les conditions des droits de l'homme, mais aussi améliorer les climats des investissements pour faciliter cette exportation. Nous terminons avec Alexandre qui nous appelle des Congolo au Katanga. Alexandre, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour papa journaliste.
Congolo.
Oui, à mon avis, je pense que le fait d'exclure notre pays dans ce programme d'AGOA, ce n'est pas un problème très grave. Mais c'est plutôt faire appel à nos autorités. Jusqu'à depuis 2003, lorsque le programme est installé au Congo, c'est partenariat avec les États-Unis. Le social n'est pas contrôlé. Le Congolais continue toujours à moisir, quel que soit le budget et d'autres aides en provenance des États-Unis. Le social est mal très contrôlé au niveau de la République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Par contre, l'appel que les États-Unis veulent faire à notre pays, c'est de bien savoir gérer le social, en fait que tout Congolais puisse se sentir coulé dans son pays.
Mmh. Voilà,
c'est ma préoccupation. Oui.
Merci beaucoup Alexandre de Congolo Katanga. D'ailleurs, l'objectif même poursuivi par le programme AGOA, c'est d'aider les pays de l'Afrique subsaharienne aussi à améliorer leur gouvernance. Et quand on améliore la gouvernance, ça a un impact direct sur le vécu de la population et l'amélioration des conditions de vie de la population. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, qui sont intervenus. Professeur Donatien Kabanga, on vous donne la parole dans 3 minutes pour conclure cette émission. On a suivi les uns et les autres, mais est-ce qu'il y a encore un espoir que si les dirigeants congolais, par exemple, puissent se ressaisir, ne pas considérer cette mesure comme un bras de fer, mais une interpellation comme le souhaitent les auditeurs pour améliorer effectivement les critères et répondre, et que cela peut les aider à retrouver leur position sur la liste américaine et continuer ainsi avec l'élan de cette croissance économique qui provenait aussi de ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Et cela vous permet aussi de clôturer et conclure cette émission.
Je dirais ceci, c'est que quand on prend de telles décisions, par exemple, quand nous sommes entrés dans ces accords, le grand problème qui se pose au niveau de nos pays, c'est avoir cette capacité d'anticipation. Mais par exemple, on a pris une telle mesure. Qu'est-ce qui a été prévu par la RDC? Parce qu'on sait que si on ne respecte pas les droits de l'homme, un jour ou l'autre, les Américains peuvent décider de manière unilatérale de retirer un pays de ces accords. Mais nos gouvernements devraient mettre toujours à l'esprit qu'il faut à tout prix ou à tout moment avoir des mesures ou en quelque sorte des solutions palliatives. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait déjà anticiper, savoir comment on a pris une telle décision. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos exportations ne puissent pas en pâtir?
Mmh.
Mais à mon avis, je trouve qu'il n'y a aucune mesure, il n'y a pas de disposition d'anticipation. Même si on doit agir maintenant, on doit agir en retard. C'est que l'effet est là, et ça sera très difficile de corriger. Et la solution, c'est peut-être comme ce que notre auditeur a posé, il faut jouer une politique de lobbying, chercher peut-être d'autres pays qui peuvent intervenir pour permettre à ce que les États-Unis puissent revenir sur leur position. C'est-à-dire qu'il faut jouer en quelque sorte ce que nous appelons la diplomatie secrète.
C'est-à-dire que ceux qui sont influents aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays, sur la politique des États-Unis ou sur Obama, qui peuvent jouer une diplomatie secrète pour permettre aux États-Unis de revenir sur la décision. Et en traitant de l'autre côté, il faut montrer que ce qu'on reprochait, on a amélioré.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Tonassin Kabanga, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir commenté ces sujets avec les auditeurs de Radio Capi.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à vous tous d'avoir suivi Parole aux auditeurs qui se termine par là. On se retrouve demain, et ça sera mardi 28 décembre, selon un rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, de décembre 2010. La lutte contre le paludisme a enregistré des avancées rapides dans le monde. L'Agence du système des Nations Unies indique que cette diminution est liée à une expansion massive des programmes de lutte anti-paludique entre 2008 et 2010 qui a permis de fournir assez de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour protéger plus de 578 millions de personnes exposées au risque de paludisme en Afrique subsaharienne. Et selon ce rapport, la RDC n'a pas connu une diminution significative. Que faut-il faire pour lutter efficacement contre le paludisme dans votre milieu? C'est le sujet des paroles aux auditeurs demain. Soyez nombreux à réagir à l'adresse ca@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Sylvain Matondo pour la réalisation de cette émission. Pierrot et la Mège, je vous dis merci, mais n'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net ou aussi en rediffusion à 20h, heure de Kinshasa, 21h, au centre et à l'est du pays. Au revoir à tous.